Quatrième jour, nuit, où Salvatore se fait misérablement découvrir par Bernard Guy, la fille aimée par Azzo est prise comme sorcière, et tous s'en vont se coucher plus malheureux et préoccupés qu'avant.
Nous étions de fait en train de redescendre dans le réfectoire, lorsque nous entendîmes une clameur et vîmes des lueurs sillonner l'obscurité du côté des cuisines. D'un souffle, Guillaume éteignit la lampe. En suivant les murs, nous nous approchâmes de la porte qui donnait sur les cuisines et nous rendîmes compte que la rumeur venait de l'extérieur mais que la porte était ouverte. Puis, les voix et les lumières s'éloignèrent et quelqu'un claqua la porte avec violence. C'était un grand tumulte qui préludait à quelque chose de désagréable. Vivement, nous repassâmes par le suaire, réapparûmes dans l'église, déserte, sortîmes par le portail méridional et nous aperçûmes un fourmillement lumineux de torches dans le cloître. Nous nous approchâmes et dans la confusion, nous avions l'air nous aussi d'être accourus avec ceux en grand nombre déjà sur les lieux qui étaient sortis soit du dortoir, soit de l'hôtellerie. Nous vîmes que les archers tenaient solidement Salvatore, blanc comme le blanc de ses yeux, et une femme qui pleurait. Je ressentis un serrement au cœur. C'était elle, la fille de mes pensées. Comme elle me vit, elle me reconnut et me lança un regard implorant et désespéré. Je cédai à l'impulsion de me jeter à son secours, mais Guillaume me retint en me murmurant quelques objurgations en rien affectueuses. Les moines et les hôtes accouraient maintenant de toutes parts. L'abbé arriva, Bernard Guy arriva, à qui le capitaine des archers fit un bref rapport. Voici ce qui était arrivé. Par ordre de l'inquisiteur, les archers patrouillaient de nuit le plateau tout entier, tenant particulièrement à l'œil l'allée qui reliait la porte d'entrée et l'église, la zone des jardins et la façade de l'édifice. Pourquoi, me demandai-je, et je compris. Évidemment parce que Bernard avait recueilli auprès des servants ou des cuisiniers des rumeurs sur certains commerces nocturnes, sans même savoir peut-être le nom exact des responsables, qui avaient lieu entre l'extérieur de l'enceinte et les cuisines. Et qui sait si ce sot de Salvatore, comme il m'avait raconté à moi ses intentions, n'en avait pas déjà parlé dans les cuisines ou dans les étables à quelques malheureux qui, effrayés par l'interrogatoire de l'après-midi, auraient donné ces bruyants pâtures à Bernard. En rôdant avec circonspection dans l'obscurité et le brouillard, les archers avaient finalement surpris Salvatore, en compagnie de la femme, tandis qu'il s'affairait devant la porte des cuisines. « Une femme dans ce saint lieu, et avec un moine !» dit sévèrement Bernard en se tournant vers l'abbé. « Seigneur très glorieux, poursuivit-il, s'il ne s'agissait que de la violation du vœu de chasteté, la punition de cet homme appartiendrait à votre juridiction. Mais comme nous ne savons pas encore si les manèges de ces deux misérables ont quelque chose à voir avec la santé de tous les hôtes, nous devons d'abord faire toute la lumière sur ce mystère. Allons, c'est à toi que je parle, misérable !» Et ce disant, il arrachait le paquet bien visible que Salvatore croyait caché sur sa poitrine. « Qu'as-tu là-dedans ?» Moi, je le savais déjà. Un couteau, un chat noir, qui, à peine le paquet ouvert, s'enfuit en miaulant furieusement, et deux œufs, cassés à présent et gluants, que tout le monde prit pour du sang, ou de la bile jaune, ou une autre substance immonde. Salvatore était sur le point d'entrer dans les cuisines, de tuer le chat et de lui arracher les yeux, et qui sait avec quelle promesse il avait induit la fille à le suivre. Avec quelle promesse ? Je le sus aussitôt. Les archers fouillèrent la fille. Au milieu d'éclats de rire malveillants et de mimots lascifs, ils trouvèrent sur elle un coquelet mort, encore aplumé. La malchance voulut que dans la nuit, où tous les chats sont gris, le coq apparut noir, lui aussi, comme le chat. Je pensais qu'il n'en fallait pas davantage pour l'attirer. La pauvre affamée, qui la nuit passée déjà, avait abandonné et par amour pour moi son précieux cœur de bœuf. « Ah ah !» s'exclama Bernard d'un ton de si grande préoccupation. « Chat et coq noir ! Mais moi, je les connais, ces frôleurs d'enfer !» Il aperçut Guillaume parmi les assistants. « Ne les connaissez-vous pas, vous aussi, frère Guillaume ? Ne fûtes-vous inquisiteur à Kilkenny, il y a 3 ans, où cette fille avait commerce avec un démon qui lui apparaissait sous la forme d'un chat noir ?» J'eus l'impression que mon maître se taisait par lâcheté. Je le saisis par la manche, le secouai, lui murmurai désespéré « Mais dites-lui que c'était pour manger !» Il me fit lâcher prise et s'adressa poliment à Bernard. « Je ne crois pas que vous ayez besoin de mes anciennes expériences pour arriver à vos conclusions, dit-il. Oh que non, il est des témoignages bien plus autorisés, sourit Bernard. Stéphane de Bourbon raconte dans son traité sur les sept dons de l'Esprit-Saint comment saint Dominique, après avoir prêché à Fanjeaux contre les hérétiques, annonça à certaines femmes qu'elles verraient qui elles avaient servi jusqu'alors. Et soudain sauta au milieu d'elles un chat épouvantable à la taille d'un gros chien, avec des yeux énormes et embrasés, la langue sanguinolente qui arrivait jusqu'à son nombril, la queue courte et dressée en l'air, en sorte que de quelque côté que se tournât l'animal, il montrait la turpitude de son derrière, fétide comme aucun, ainsi qu'il convient à cet anus que moult dévots de Satan, et les Templiers sont loin d'être les derniers, ont toujours eu coutume de baiser au cours de leur réunion. Et après avoir tourné autour des femmes pendant une heure, le chat sauta sur la corde de la cloche et s'y hissa, laissant derrière lui ses restes puants. Et le chat, n'est-il pas l'animal aimé des cathares, qui selon Alain de Lille prennent leur nom de catus, justement, car ils baisent le postérieur de cette bête en le croyant l'incarnation de Lucifer? Et Guillaume d'Auvergne même ne confirme-t-il pas cette dégoûtante pratique dans le Delegibus? Et Albert le Grand, ne dit-il pas que les chats sont des démons en puissance? Et mon vénérable confrère Jacques Fournier ne rapporte-t-il pas que sur le lit de mort de l'inquisiteur Godefroy de Carcassonne apparurent deux chats noirs, qui n'étaient rien d'autre que des démons voulant tourner en dérision cette dépouille mortelle? Un murmure d'horreur parcourut le groupe des moines, dont nombre fit le signe de la Sainte Croix. « messer abbé, disait cependant Bernard d'un air vertueux, peut-être votre magnificence ne sait-elle pas quel usage les pêcheurs font de ces instruments? Mais je le sais bien, moi. Puisque Dieu l'a voulu. J'ai vu des femmes d'une grande scélératesse, aux heures les plus noires de la nuit, réunies avec d'autres du même acabit, se servir de chats noirs pour obtenir des prodiges qu'elles ne purent jamais nier, au point d'aller à cheval sur certains animaux et de parcourir à la faveur des heures nocturnes des espaces immenses, entraînant leurs esclaves, transformés en incubes aux envies folles, et le diable soi-même se montre à elles, ou du moins le croit-elle fortement sous la forme d'un coq ou d'un autre animal noir, comme du charbon, et elles vont avec celui-ci, ne me demandez pas comme jusqu'à coucher ensemble. Et je sais de source sûre qu'avec des nécromanciers de ce genre, il n'y a pas longtemps de cela, précisément en Avignon, on préparait philtres et onguents pour attenter à la vie de notre Seigneur le Pape en personne, en lui empoisonnant sa nourriture. Le pape put s'en défendre et repérer la substance toxique uniquement parce qu'il était muni de prodigieux joyaux en forme de langue de serpent, fortifiés par d'admirables émeraudes et rubis qui, par vertu divine, servaient à révéler la présence de poison dans ses mets. Le roi de France lui en avait offert 11 de ces langues très précieuses, grâce au ciel, et c'est seulement ainsi que notre Seigneur le Pape put échapper à la mort. Il est vrai que les ennemis du souverain pontife firent davantage encore, et tout le monde sait ce qui se découvrit au sujet de l'hérétique Bernard Délicieux, arrêté voilà 10 ans. On trouva chez lui des livres de magie noire annotés très précisément aux pages les plus scélérates, avec toutes les instructions pour modeler des figures de cire à partir desquelles causer des dommages à ses ennemis. Et le croiriez-vous, on alla jusqu'à trouver chez lui encore des figures qui reproduisaient avec un art admirable certes l'image même du pape, couverte de petits cercles rouges sur les parties vitales de son corps. Et tout le monde sait que de telles figures, suspendues à une corde, se placent devant un miroir, et puis qu'on frappe les cercles vitaux avec des aiguilles et... Oh, mais pourquoi m'attardais-je à ces dégoûtantes misères? Le pape lui-même en a parlé et les a décrites, en les condamnant justement l'année dernière dans sa constitution « Super Ilius Specula ». Et j'espère vraiment que vous en avez un exemplaire dans votre riche bibliothèque pour méditer dessus comme il se doit. « Nous en avons un », confirma avec ferveur l'abbé, fort troublé. « C'est bon, conclut Bernard, désormais le fait me semble clair. Un moine séduit, une sorcière et certains rites qui par chance n'a pas eu lieu. » À quelle fin? C'est ce que nous saurons et je veux sacrifier quelques heures de sommeil pour le savoir. Que votre magnificence veuille bien mettre à ma disposition un endroit où cet homme puisse être surveillé.
Nous avons des cellules dans le sous-sol de l'atelier des forgerons, dit l'abbé, qu'heureusement on utilise fort peu et qui sont vides depuis des années.
Heureusement ou malheureusement, observa Bernard. Il donna l'ordre aux archers qu'on lui indiqua le chemin et de conduire dans 2 cellules différentes leur capture, et de solidement attacher l'homme à quelque anneau pris dans le mur, de façon que lui-même pût d'ici peu descendre l'interroger en le regardant bien au visage. Quant à la fille, ajouta-t-il, de qui il s'agissait, c'était clair. Il ne valait pas la peine de l'interroger cette nuit-là. On produirait d'autres preuves avant de la brûler comme sorcière. Et si c'était bien une sorcière, elle ne parlerait pas facilement. Mais le moine, peut-être, pouvait encore se repentir, et il fixait Salvatore tout tremblant, comme pour lui faire entendre qu'il lui offrait une dernière chance, en racontant la vérité, et ajouta-t-il en dénonçant ses complices. On emmena les deux captifs, l'un silencieux et défait, presque dans un état fiévreux, l'autre qui pleurait et lançait des coups de pied, et criait comme une bête à l'abattoir. Mais ni Bernard, ni les archers, ni moi-même ne comprenions ce qu'elle disait dans sa langue de paysanne. Elle avait beau parler, elle était comme muette. Il y a des mots qui donnent du pouvoir, d'autres qui rendent encore plus démunis. Et dans cette dernière catégorie, entre les mots des simples en langue vulgaire, à qui le Seigneur n'a pas donné de savoir s'exprimer dans la langue universelle de la sapience et de la puissance. Encore une fois, je fus tenté de la suivre. Encore une fois, Guillaume, l'œil noir, me retint. « Ne bouge pas, idiot, dit-il. La fille est perdue. C'est de la chair à bûcher. » Tandis que j'observais atterré toute la scène, dans un tourbillon de pensées contradictoires, fixant la jeune fille, je sentis qu'on me touchait à l'épaule. Je ne sais pourquoi, mais encore avant de me retourner à son toucher, je reconnus Hubertin.